Mobile studio.
Studio mobile, radio du roi, ici et là.
Denis Lebioda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe artistique et documentariste également.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes présent à ce Tous en bottes de l'édition 2018. Et par quel cheminement êtes-vous arrivé ici?
J'étais déjà présent à l'édition précédente, il y a 2 ans. Et je suis un photographe qui travaille beaucoup dans le monde rural et agricole. Et je suis un petit peu connu pour mon travail documentaire auprès d'agriculteurs paysans, d'agriculteurs investis dans le bio, dans les AMAP, dans les réseaux associatifs, dans ce qu'on appelle plus généralement l'agriculture paysanne. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec Eddie Agersif, qui m'avait invité il y a 2 ans pour présenter certaines de mes photos. Et je suis de retour et très content d'être de retour cette année pour présenter d'autres photos.
Alors, le thème de l'agriculture, même paysannerie, dirait-on, plutôt.
Tout à fait.
Vous le connaissez depuis longtemps.
Depuis très 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 longtemps. Je suis un fils d'horticulteur de la Côte d'Azur. Ensuite, mon activité de photographe m'a amené à pas mal me promener. Et depuis 2001, j'habite dans les Hautes-Alpes. Je travaille dans les Hautes-Alpes. Et je réponds à des commandes de clients, comme tout photographe professionnel qui se respecte. Et je mène en parallèle ce travail un peu plus personnel dans la durée, qui est un engagement de suivre des agriculteurs, des paysans, des gens qui transforment des produits aussi, fromagers, boulangers. Je les suis dans la durée et on fait des photos. Voilà. Et après, ces photos sont vendues, sont publiées, sont exposées.
Pour certaines photos, vous avez une maison d'édition qui vous suit, avec laquelle je suppose que vous collaborez, qui s'appelle La Vie qui va.
Voilà, c'est une petite maison d'édition associative qui produit un certain nombre d'ouvrages, des cartes postales, des journaux, un petit peu à la demande, toujours dans le même esprit.
Et cette activité vous prend beaucoup de temps et vous permet d'en vivre?
Alors c'est mon activité professionnelle principale, j'ai une autre activité, mais on arrive effectivement, c'est pas la fortune, mais ça permet quand même de vivre.
De vivre heureux.
Surtout, pas riche mais heureux. Et alors, puis d'avoir l'impression de faire quelque chose d'utile. Je crois beaucoup aussi à la nécessité de montrer que notamment dans le monde rural, il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui ne sont pas dans les canons habituels de ce qu'on peut voir dans les grands médias, à la télé, que les agriculteurs avec lesquels je travaille, que je fais des photos, ne sont pas forcément ceux dont on parle tous les jours, qui vont faire des manifestations, déverser du purin devant la préfecture. Évidemment, ce n'est pas forcément facile pour eux. Mais moi, je m'attache à montrer le volet passion de leur métier. On n'est pas agriculteur si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Et on s'y engage totalement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est ça qui m'intéresse.
Cette activité de photographe, vous pouvez l'exercer parce que vous avez su donner l'impulsion à ces agriculteurs ou ces paysans à montrer leur activité au plus grand nombre.
C'est un une histoire de rencontre humaine et de complicité, d'intérêt bien compris. Et c'est vrai que les producteurs, je montre par exemple des photos d'un fromager ici, qui sont exposées sur mon stand. Et régulièrement, il est interpellé sur les marchés quand il vend ses produits. Et les gens disent « Ah, j'ai vu vos photos dans tel musée, j'ai vu vos photos dans tel journal ». Donc c'est aussi important pour eux et pour moi, mais aussi pour l'ensemble de la société, de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des agriculteurs qui sont jeunes, qui gagnent leur vie, et qui sont dans des démarches non industrielles, à la fois au niveau de la production, mais aussi de la distribution. Moi, je suis très sensible à ces agriculteurs. Par exemple, je fais régulièrement des photos avec un paysan boulanger. Il cultive lui-même ses céréales, qui sont des céréales de variété ancienne. il fait sa farine, il fait son pain et il va le vendre sur les marchés ou dans les AMAP. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et là aussi, c'est pas quelqu'un qui va être fortuné, qui passera tous les jours dans les grands médias, mais c'est un travail qui a du sens, qui est ancré dans un territoire et qui donne à la fois de la santé et du plaisir aux gens qui achètent les produits. Mais je crois que c'est ça qui est important. Enfin, en tout cas, moi, je m'attache à le montrer.
Les photographies que vous exposez à votre stand sont principalement en noir et blanc. Vous faites de la couleur, parfois ?
Quand on me le demande, je fais de la couleur.
Mais votre péché mignon, c'est quand même le noir et blanc.
C'est plus que péché mignon.
C'est une passion.
Je crois que c'est mon choix artistique. Je me sens beaucoup plus à l'aise en noir et blanc. Ça permet, à mon sens, de raconter des histoires de manière plus précise. On ne s'attache pas au côté un peu clinquant de la couleur et on peut focaliser beaucoup plus sur les personnages, sur les attitudes, sur les regards, sur les gestes. On n'est pas perturbé par toute la couleur qui est belle et qui existe dans la nature, je ne cherche pas à la nier, mais par rapport à la démarche qui est la mienne, je pense que c'est plus intéressant en noir et blanc.
C'est plus signifiant ?
Oui, on peut le dire comme ça.
Et donc ces photographies, vous les pratiquez en argentique ou alors vous vous êtes adapté au numérique aujourd'hui ?
Alors depuis une dizaine d'années, c'est du 100% numérique. J'ai eu une longue carrière en argentique, j'ai beaucoup travaillé en laboratoire professionnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'argentique. Bon, maintenant voilà, la terre a tourné, le progrès est là et c'est effectivement un progrès. Ça ne veut pas dire que l'argentique est mort, mais c'est une autre démarche. Et ça permet de faire aujourd'hui des choses qu'on ne faisait pas en argentique. À titre d'exemple, photographier dans une étable un éleveur en train de s'occuper de ses vaches en argentique, on est obligé d'amener de l'éclairage parce que c'est trop sombre. En numérique, on monte en sensibilité sans problème. Et on a des photos qui sont plus douces, moins agressives, plus respectueuses. Dans un poulailler, on ne peut pas rentrer avec des flashs, les poules deviennent folles. Alors qu'en numérique, on le fait sans aucun problème.
Petite question annexe. Justement, vous travaillez uniquement en manuel avec vos appareils photo.
Dans 98% des cas, oui.
Voilà. Juste parce que j'ai remarqué que les réglages automatisés des appareils portables numériques perturbaient l'animal qui était devant, parce que je crois que ça émet des fréquences de calcul pour mesurer les distances.
Oui,
et je pense qu'ils sont très sensibles à ces...
Oui.
Donc vous prenez garde à ça, par exemple.
Moi, je suis tout en manuel. Je ne supporte pas les appareils photo qui font le boulot à ma place. C'est peut-être un peu idiot, mais j'aime bien pouvoir maîtriser la bête. Donc quand j'achète un appareil photo, c'est toujours un appareil qu'on peut utiliser en 100% manuel. Et ce que vous évoquez sur les autofocus avec des rayons infrarouges pour faciliter la mise au point, c'est totalement désactivé chez moi. Alors c'est évidemment plus compliqué, plus contraignant, mais moi je fais ce que je veux et j'embête personne, et notamment pas les animaux.
Et puis c'est plus économique
aussi.
Pour la batterie. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous l'avez dit au départ, mais qu'est-ce qui a engagé votre démarche auprès des paysans à exercer un travail de mémoire de leur activité ? Est-ce que vous aviez une idée de laisser une trace ?
Alors, c'est parti toujours dans ce genre d'histoire d'une rencontre humaine. Je suis un militant d'une AMAP dans le Champsaur depuis une douzaine d'années. Et un jour, c'est parti comme ça en disant « Tiens, Denis, tu pourrais pas nous faire des photos des producteurs de l'AMAP ?» Et donc, on a enclenché le travail, enfin ce travail-là, de cette manière. Donc, avec des gens que je connaissais déjà, dont je connaissais les produits. Et puis, progressivement, ça fait boule de neige. À chaque fois, il y en a un qui me dit « Tiens, j'ai un collègue qui fait ça en tel endroit. » Donc maintenant, il y a un réseau qui s'est constitué. Et puis, ce sont des gens que je suis maintenant depuis presque une dizaine d'années pour certains d'entre eux. Donc à certains moments de leur travail, ils me téléphonent, ils m'envoient un petit mail en me disant « Tiens, demain, il y a la tombe des moutons. Ou dans 15 jours, on plante les tomates. Et si je suis disponible, j'y vais. » Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas un photographe de la grande photo unique qui va gagner des concours. Je travaille sur de la série et sur des images qui, sur 30, 40, 50 images, vont raconter une histoire, une vie, une pratique professionnelle, qui ensuite donne matière à des livres, à des expositions.
Ces photographies, ça regroupe à peu près combien de personnes que vous avez pu prendre en reportage ?
Sur le monde agricole, une bonne cinquantaine. Après, ça dépend des sujets. Il y a des gens qui sont avec lesquels ça se passe mieux que d'autres. il y a des activités qui sont, je vais dire, plus photogéniques ou qui demandent plus de l'engagement du photographe. Suivre un maraîcher, il y a une activité très très diversifiée. Un agriculteur qui est en train de labourer avec un gros tracteur dans un champ, une fois qu'on a fait trois photos, on en a fait le tour. Donc c'est modulable en fonction des étapes du travail. Avec un éleveur, le jour de la tonte, il y a de quoi faire 300-400 photos sans forcer, parce qu'il va tondre, ils vont être 4 ou 5 pour tondre 500 moutons. Donc là, c'est très très riche photographiquement. Et puis un jour, vous allez voir, je prenais l'exemple de quelqu'un qui va semer du blé. Une fois qu'il est sur son tracteur, vous faites deux photos sur le tracteur et deux photos à l'extérieur, et puis c'est fini, c'est très très répétitif. Donc il faut s'adapter. Mais ça ne veut pas dire que l'agriculteur qui est en train de semer son blé, si j'ai passé qu'une heure avec lui le jour où il a semé, je vais passer plus de temps après quand il va aller récolter ou faire d'autres travaux. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'engager dans la durée. Et c'est ce que, notamment pour des raisons économiques, mais pas seulement, beaucoup de photographes ne font pas. Il y a beaucoup de photos qui sont plutôt de la photo d'illustration publicitaire, où on va prendre un agriculteur, on va lui le faire mettre au garde-à-vous avec trois poireaux dans un panier, on fait la photo en un quart d'heure et on repart chez soi. Bon, c'est bien, ça a une utilité, certains le font, moi c'est pas mon truc.
Et vous travaillez avec un 24-36 ou moyen format, parfois ?
Non, c'est du 24-36.
Et quand vous procédez à une prise de vue en particulier, vous êtes là au cadrage, à la lumière, à l'action ? Alors, à essayer de composer l'image aussi ?
Autant que possible, j'ai deux, trois règles. La première, c'est d'essayer de me faire oublier le plus possible. C'est pas évident, mais au fil du temps, en connaissant les gens, on y arrive. C'est d'être le plus proche d'eux, donc je travaille beaucoup au grand angle. L'essentiel de mes photos sont faites au 28 mm. Il y a certaines situations où on ne peut pas, mais quand on peut, on le fait. Et j'ai une autre règle qui est de ne jamais intervenir et de demander à quelqu'un de refaire un geste en disant « Tiens, ça c'est beau ce que vous avez fait, recommencez parce que je me suis loupé, j'étais mal réglé. » Donc je les laisse vraiment faire leur boulot. Effectivement, ils savent qu'il y a un photographe, mais il y a toujours un moment dans la séquence de travail où le travail les absorbe tellement qu'ils font abstraction du photographe. Et c'est à ce moment-là où la photo devient intéressante.
Et à la limite, ils prennent conscience de votre présence quand ils entendent le déclic ?
Non, parce que j'ai un appareil qui ne fait même pas de bruit.
Ah, il est silencieux. Voilà. Oui, c'est un peu l'avantage du numérique, c'est que ça ne fait pas de bruit.
Bon, mais j'ai longtemps travaillé avec des Leica argentiques qui ne faisaient aucun bruit.
Ouais.
Et là, je suis en Leica numérique, ça ne fait pas plus de bruit.
Et vous faites toujours les tirages vous-même ?
Jusqu'au format A2, je fais mes tirages moi-même. Ensuite, je passe par un laboratoire. J'aime bien maîtriser l'ensemble de la chaîne. Je suis un peu comme ces agriculteurs que je photographie, qui vont du semis jusqu'à l'assiette du client. Et moi, j'aime bien aussi prendre mes photos et puis faire mes tirages, les livrer moi-même, les exposer moi-même. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant que de déléguer une partie du boulot à quelqu'un d'autre, même si c'est très bien fait, c'est pas là le problème. Mais j'aime bien faire mes tirages moi-même.
Et justement, les sujets que vous abordez, donc il y a aussi le monde animal, je vois.
Oui.
Et c'est quand même une encyclopédie, c'est dans l'idée d'une encyclopédie que vous prenez des photographies comme ça. Je parlais de mémoire tout à l'heure.
Oui,
mais...
oui, il y a un côté un peu...
D'explorateur,
d'ethnographie,
de chercheur.
Plutôt. Oui. Je travaille avec un collègue en ce moment sur un autre sujet qui est la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire des lieux ordinaires. C'est-à-dire ces maisons, ces bâtiments qu'on est en train d'abandonner parce que le monde a changé, que les gens veulent rénover leurs maisons, qu'on a photographié dans les anciennes mairies qui sont plus aux normes parce qu'on va tout casser pour faire un accès handicapé. Et pour moi, c'est important de fixer ce qui s'est passé il y a 10, 20, 30 ans. Ces lieux, comme dans le monde, enfin, généralement dans le monde rural, mais comme le travail des agriculteurs, qui existent, qui ont une importance, et dont on ne parle pas parce que ce n'est pas le château de Versailles, que ça ne sera jamais muséographié, qu'il n'y a pas d'événement exceptionnel ou dramatique, donc ça ne passera pas à TF1. C'est des trucs de la vie de tous les jours qui m'intéressent. Et donc là, on photographie d'anciennes maisons, des anciennes cures, des anciennes piscines, des anciens ateliers d'artisans, où il y a encore les traces humaines. Et ça, c'est en train de disparaître. Dans 10 ans, dans 20 ans, une fois que les gens sont morts, les héritiers cassent tout et font autre chose. Et c'est normal, c'est la vie. Mais je regrette, si je peux avoir un regard un petit peu politique sur les choses, qu'aujourd'hui tout va tellement vite qu'on ne prend plus le temps de regarder le passé. Et on considère que ce qui a 10 ans d'âge, c'est déjà complètement has-been et que ça n'a aucun intérêt. Or, ça a accompagné la vie d'un tas de gens. On photographie des anciennes douches, des anciennes lampes, des interrupteurs ou des lampes avec les fils torsadés en tissu. Ceux qui ont plus de 50 ans, ils savent de quoi je parle. Ouais. Les petits jeunes, ils ne savent pas.
Il y en a encore à dire, hein, de ces fils.
Et ça a permis d'amener l'électricité à un grand progrès à des tas de gens. Et tout ça, sous prétexte que c'est modeste, que c'est dépassé par des applis iPhone ou je sais pas quoi d'autre, on le met à la poubelle, on n'en parle pas. Donc avec un de mes collègues, on essaye de fixer ça et de travailler avec un réseau de gens qui nous signalent des lieux intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-progrès, ça veut dire qu'on, pour regarder l'avenir, déjà aujourd'hui et puis l'avenir, il faut aussi être bien assis et savoir d'où on vient et ce qui s'est passé avant, ce que nous on a vécu. Moi j'ai un certain âge maintenant, donc j'ai vécu un certain nombre de choses, j'ai connu des trucs chez mes parents ou grands-parents qui ont complètement disparu maintenant. Et je trouve que c'est dommage de tirer un trait et d'oublier tout ça.
Certains corps du monde paysan qui se tournent vers la modernité au même titre que vous êtes tourné au numérique. Est-ce que vous voyez le parallèle que je veux
oui,
amener?
Oui, tout à fait. Mais
dans ce mode de paysannerie, de production oui. agricole, vous êtes témoin de ces changements?
Mais complètement. Moi, dans les photos que je présente, ce sont généralement quand même des gens assez jeunes, des 30, 40 ans, qui ont des pratiques qu'on va dire anciennes, au sens où c'est bio, c'est à la main, c'est du labour avec un cheval, c'est du pétrissage de pain à la main dans une haie en bois. Et dans le même temps, ces gens-là, vous les voyez travailler, ils ont téléphone portable à la main. Quand ils sont chez eux, ils sont sur Facebook, ils ont leur site internet pour vendre leurs produits. Ils se déplacent en voiture pour aller au marché. Ils ont des vitrines réfrigérées. Je crois qu'il n'y a pas... Ce qui compte, c'est la qualité du produit, l'amour et la passion qu'on met pour le faire. Et ça, moi, j'aime bien le photographier. Mais je ne suis pas du tout dans l'image de « c'était mieux avant ». Il y a des choses qui étaient bien avant qu'il faut conserver. Ce n'est pas utile d'aller balancer du Roundup dans tous les champs et puis d'empoisonner tous les gens avec les produits qu'on va manger issus de l'industrie agroalimentaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit vivre sans électricité comme au Moyen-Âge.
Il y a toujours une science paysanne, un savoir-faire qui perdure quand même, qui se transmet toujours.
Se transmet sur les méthodes de production. mais avec des éléments modernes. Moi, je connais des agriculteurs paysans qui font du bio et qui, pour certaines parties de leur travail, utilisent un drone. Bon, ben, attends, c'est vraiment pas un problème pour moi. Je ne suis pas un fanat de la charrette tirée par un cheval et de l'éclairage à la bougie. Quand on peut faire mieux et saisir ce qu'il y a de bien dans le progrès, tant mieux. Mais la contrepartie aujourd'hui de ce qu'on appelle le progrès, notamment dans le monde de l'alimentation et de l'agriculture, c'est une industrialisation tellement folle qu'on ne sait même plus ce qu'on mange, qu'au passage on se rend malade, et ça c'est un peu dommage. D'où mon intérêt aussi pour des manifestations comme celle-là, où on parle à la fois de nourriture, de santé, de qualité de l'environnement, de bien-être animal.
Vous êtes témoin d'une époque, d'un monde agricole. Est-ce que, comment l'avez-vous vu évoluer depuis 10 ans que vous travaillez avec ces personnes? Est-ce que vous avez vu des difficultés arriver ou alors des choses vont mieux? Comment ça se passe?
Il y a à la fois un essor de tout ce qui est la demande du consommateur pour le bio, pour quelque chose qui est respectueux de la nature, de l'environnement, de la santé, comme je l'ai déjà dit. Et dans le même temps, il y a une espèce de prise en tenaille des agriculteurs par tout ce qui est le monde de la grande distribution, qui investit en bio, qui est en train de bousculer ce marché avec des pratiques qui ne sont pas du tout éthiques et en rupture avec le bio tel qu'on a pu l'imaginer. Le bio industriel, c'est une vaste rigolade, c'est de l'arnaque complète. Mais voilà, aujourd'hui, ça existe. Et un certain nombre de consommateurs, peut-être pas très avertis, se disent bah, parce que c'est bio et que c'est vendu chez telle ou telle grande enseigne, ça va être bon. Alors que c'est pas forcément beaucoup meilleur quelque chose de purement industriel. Donc il y a cette difficulté de faire comprendre pour les agriculteurs que ce qu'ils font, c'est différent de tous ces machins sur lesquels des publicitaires collent l'étiquette bio. Et ça, on le voit très nettement quand on se promène ici. Les producteurs qui sont là, ils ne sont pas diffusés dans les hypermarchés. Ils ont des petites productions, ils vont faire du fromage de chèvre bah, quand les chèvres font du lait et quand c'est la saison, et puis quand il y en a plus, il n'y en a plus. Alors que quelqu'un qui veut fournir la grande distribution, il doit faire du fromage de chèvre 365 jours par an, et si possible le même, il ne change pas de saveur en fonction de l'état de l'herbe ou de la météo ou d'autre chose. Ça, c'est difficile à faire comprendre. Mais je pense qu'il y a des gens qui s'adaptent, et il suffit de se promener dans nos campagnes et dans les villes pour voir que les produits bio sur le marché, il y en a de plus en plus.
Alors, votre travail donc sert à faire découvrir ce monde, mais aussi à étayer un peu le et porter à la connaissance d'un large public les possibilités en alternance à celles de l'industrie agricole. Est-ce que vous avez, c'est un soutien, et justement, est-ce que vous arrivez à trouver un écho au niveau médiatique, pas forcément les grands groupes médiatiques, mais il y a un réseau certainement qui porte cette parole.
Oui, tout à fait. Et mes photos, elles sont demandées dans des lieux ou dans des revues qui sont spécialisées sur ces questions-là. Après, modestement, ça fait peut-être changer un petit peu les choses. Mais c'est vrai que j'ai quelquefois des questions étonnantes sur les expos, où les gens voient des photos, les gens disent « Ah, il y a encore des gens qui font des labours avec un cheval, vous avez fait ça au moment de la fête du patrimoine, ou je sais pas, un truc comme ça. » Non, c'est son boulot, il fait ça quand il a besoin de labourer, il va pas chercher un gros tracteur avec de l'essence, il prend son cheval et il fait. Et ça marche tout aussi bien, peut-être même mieux d'ailleurs. Mais voilà, tout ça, c'est une œuvre de témoignage. Je ne suis pas le seul photographe au monde à faire ce genre de travail, mais je crois beaucoup à ce travail qui est de l'ordre de la photo documentaire engagée, et loin du spectaculaire, du dramatique, du sang, des larmes, tout ce qu'on voit dans la presse. Aujourd'hui, on parle du monde rural et agricole quand ça va mal. Mais 365 jours par an, heureusement, dans le monde rural, il se passe des choses très bien, et il y a des gens qui vivent très heureux. Et il y a des agriculteurs qui, effectivement, n'auraient pas mis de difficultés, mais ils ne sont pas tous en train de se suicider tous les matins. Et je crois que c'est important de montrer cet aspect des choses, et peut-être progressivement de le faire comprendre aux consommateurs, aux pouvoirs publics. Mais c'est un vaste débat et un combat qui est dur à mener.
Un gros travail encore à venir. On va parler des photographies même. Quand je les observe, ça me rappelle une technique. Vous les tiriez sur papier baryté, par exemple, certains tirages, et vous les traitiez au ferricyanure, par exemple, pour donner des aspects un peu argentiques, poussés.
C'est ce qu'on faisait en argentique.
Oui.
Maintenant que je suis passé en numérique, je fais partie des quelques fous qui ont des super appareils qui font des fichiers de très haute définition.
Oui.
Et en post-production, c'est-à-dire après des logiciels, je dégrade les fichiers et je rajoute artificiellement du grain pour me rapprocher de ces images argentiques. J'en suis un peu orphelin, c'est ma culture, mais je trouve que la photo telle qu'on nous la vend aujourd'hui, issue du numérique, est tellement parfaite, tellement lisse, tellement froide, qu'il y a quelque chose qui me gêne. Et donc je retravaille toutes mes photos, il y a un gros boulot de post-production, pour retrouver une matière, éventuellement faire des légers virages. C'est pas du noir et blanc pur de décoffrage, fait bêtement par un logiciel. Il y a un gros travail sur chaque fichier.
Il y a une douceur dans les images aussi, hein, du fait de cette technique. Ces formats, vous les faites de toute taille, par exemple?
C'est à la demande, oui. J'ai aussi des impressions sur des bâches. Enfin bon, tout est possible après. C'est aussi la grande souplesse du numérique. On a quand même complètement révolutionné le monde de la photo avec ça.
Vous pensez que ça a été un gros progrès, ce passage au numérique, qui était très décrié à sa naissance? Beaucoup de photographes argentiques reniaient, ne voulaient pas en entendre parler. Mais moi-même, pareil, je suis passé à l'argentique il y a 10 ans, au numérique.
Les premiers appareils numériques étaient assez décevants, c'était sympa pour faire des vignettes sur Internet, mais ça n'allait pas trop loin. Maintenant, on a du matériel qui est largement supérieur à ce qu'on a en argent. Après, c'est des questions de sensibilité personnelle, de conduite. C'est vrai que le grain qu'on avait sur certains films, le grain de la Trix en noir et blanc, c'était quelque chose d'absolument génial. Donc moi, je bricole mes fichiers pour retrouver un peu ça. Mais voilà, je ne suis pas du tout fâché que le numérique soit arrivé. Et puis après, c'est peut-être un autre débat, mais du temps de l'argentique, on avait quand même des produits chimiques hyper polluants. Aujourd'hui, on peut traiter nos photos tranquillement dans un fauteuil devant son ordinateur sans se polluer la santé. Bon, la pollution est sans doute déplacée parce que la production des ordinateurs, ce qu'on utilise, les flux Internet et autres, c'est aussi une forme de pollution. C'est plus la même. Je crois qu'il faut aussi avoir un raisonnement un peu global et voir qu'on est quand même des pollueurs, même si on est passé en numérique. Mais plus au même endroit.
Est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui soit vraiment non polluant en finale?
C'est délicat.
Ouais. Alors, la maison d'édition qui vous édite, La Vie qui va, vous êtes en partie un des fondateurs.
Oui.
Et ce parti pris de La Vie qui va, quel est l'objectif ou comment dire la ligne éditoriale de cette maison d'édition?
C'est essentiellement des photos de la vie quotidienne, d'où les titres. Et puis après, c'est aussi un certain nombre d'opportunités, notamment par rapport à une association dont je fais partie, qui s'appelle Regard Alpin, qui est née dans les Hautes-Alpes, et qui organise principalement tous les ans des grandes rencontres photographiques, avec des photographes qui viennent de toute la France et même de l'Europe, sous forme de dialogues photographiques avec des écrivains. Il y a eu des dialogues photographiques avec Georges Jeunet, Jack London, Francis Ponge. On prépare une édition autour d'Alexandra David-Noël et on invite des photographes à illustrer à leur façon les œuvres de ces écrivains. Et donc, les éditions La Vie qui va éditent les journaux et livres qui accompagnent cette manifestation.
Comme ça, est-ce qu'à la librairie Mosaïque a dit, je ne sais pas si vous la connaissez, on peut trouver vos ouvrages?
Non, mais ça pourrait venir.
Oui, c'est une très belle librairie. Vous avez encore la chance d'avoir une librairie comme ça. Bien qu'il y en ait de plus en plus, Saillant, même à Cré, intéressantes.
C'est un débat qui a à voir aussi avec celui de la lecture paysanne, c'est-à-dire la renaissance modeste mais passionnante de la librairie indépendante. Avec là aussi, quand on rencontre ces libraires, moi j'en connais plutôt du côté des Hautes-Alpes, c'est aussi un engagement. Ce sont des gens qui ne seront jamais la FNAC, qui ne seront jamais très riches, mais qui, quand ils mettent un livre en rayon, savent ce qu'il y a dedans. Et ils ne sont pas là simplement pour trimballer des cartons ou des palettes de livres. les accompagnent, ils font des conférences, des rencontres avec les auteurs, des approches thématiques. Et moi, j'aime beaucoup ce monde de la librairie indépendante et de l'édition indépendante, de la petite édition.
Pour ce travail, vous êtes cantonné sur un territoire assez proche de vous. Ou alors, ça vous est arrivé d'aller à l'autre bout de la France, par exemple ?
Alors, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait de photos un peu partout. Depuis quelques années, notamment pour des raisons personnelles de santé, je voyage beaucoup moins. Et puis, bah, les Hautes-Alpes, le Massif alpin, le Diwa, le Trièves, c'est bien aussi. Hein. Il y a largement de quoi faire, occuper toute une vie. Donc, ça ne me pose pas trop de problèmes. On fait un boulot dans le Trièves en ce moment, on est allé traîner du côté de Marseille aussi. Voilà, enfin, dans la grande région, il y a largement de quoi faire et beaucoup de sujets à traiter, surtout de la façon dont je les traite, donc ça prend du temps.
Pour que les auditeurs puissent découvrir votre travail, je suppose que vous avez un site internet.
Tout à fait, denis-lebiodat.com, et on le trouve aussi sur Facebook, bien sûr.
Denis Lebioda, merci de nous avoir donné un peu de votre temps et donc je vous souhaite une bonne continuité.
Pareil pour vous et merci.
Au revoir.
Bonne journée.